Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ, l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisse-t-il nous accorder des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ, mais plus particulièrement, qui sont ceux pour qui le Seigneur Jésus intercède? Il y en a qui disent que c'est pour tous les individus du monde entier, et donc, ayant déjà fini son œuvre à la croix et remonté au ciel, selon eux, le Seigneur Jésus est là, intercédant en faveur de tous les individus du monde, voulant que chacun vienne à lui pour le salut. Mais si tel est le cas, cela veut dire que beaucoup de ceux pour qui Christ intercède ne sont pas sauvés, parce que tous les jours, il y en a qui meurent et qui vont à l'enfer selon le jugement de Dieu. Et deuxièmement, dire que Christ intercède en faveur de tous les individus du monde entier contredit ce que nous lisons dans les Écritures, particulièrement dans mon texte ici dans Jean 17. Et à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, nous lisons dans le verset 9, « C'est pour eux que je prie. » Et puis il ajoute, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Donc nous devons nous arrêter là un moment et considérer ce que le Seigneur Jésus, ici dans cette prière sacerdotale, et en train d'adresser à son Père, il dit particulièrement, c'est pour eux que je prie. Et là, il faut remonter dans le contexte. Et c'est là que nous voyons qu'il est en train de prier pour les hommes, les pécheurs, que le Père, lui, avait donné du milieu du monde. Comme nous voyons dans le verset 6, Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc c'est évident que c'est pour eux qu'il prie ici, sur la terre. Il a adressé son Père dans la prière au ciel maintenant. La Bible dit qu'il vit pour intercéder. C'est le mot qui est employé dans les Écritures, intercéder comment? Sa présence auprès du Père, ayant accompli son œuvre du salut que le Père lui a donné pour venir dans ce monde, ayant fini et achevé cette œuvre, sa présence auprès du Père alors est une intercession en faveur de ceux pour qui il a donné sa vie. Donc, s'il a donné sa vie pour tous les individus du monde entier, donc, tous les individus du monde entier sont sauvés. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus reçoit du Père tout ce qu'il demande. Et lui-même, il a dit ça de tout ce que le Père lui a donné. Il ne perdra rien. Nous voyons ça particulièrement dans Jean chapitre 6. À partir du verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Donc c'est évident qu'il y en a qui ont vu et entendu le témoignage du Seigneur Jésus qui ne croit point et qui ne croirait point. Laissés dans leur aveuglement, dans leur incrédulité, qui est l'évidence d'un cœur dépravé, et tordu. Mais verset 37 dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, notez bien, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, particulièrement, nous voyons ici, ceux pour qui le Seigneur Jésus intercède, c'est ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité. Et le verset 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui croira au Fils et qui verra le Fils? Cet ordre est très important. D'abord, c'est voir le Fils. Il faut que Dieu donne des yeux pour voir. Et ensuite, croire en lui. Ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Et seulement ceux-là ont la vie éternelle. Donc, c'est pour eux que le Seigneur Jésus prie. Ici, dans Jean chapitre 17, et il dit, particulièrement, il ne prie pas pour le monde. C'est vrai, il y a des pécheurs de toute nation, de toute race, pour qui le Seigneur Jésus est venu dans le monde donner sa vie. Ça, c'est évident, particulièrement dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9. Nous voyons ici ceux que Christ a rachetés, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ça, c'est le livre dans lequel sont décrits tout ce que Dieu a ordonné, tout ce qu'il a prédestiné pour l'histoire de ce monde, comprenant aussi les êtres humains qui devaient être sauvés ou condamnés. Tout cela est déjà inscrit dans ce livre et scellé d'un sceau. Le sceau représente l'autorité du roi. Et seulement le Seigneur Jésus est digne d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et notez bien, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, c'est pas de tous les êtres humains, mais tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc, ici, dans Jean 17 et le verset 9, lorsque le Seigneur Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde, bien vrai, il y en a dans le monde entier pour qui il intercède. Mais lorsqu'il dit ici, je ne prie pas pour le monde, il s'agit de ce monde d'incrédules, des pécheurs rebelles, laissés à eux-mêmes. Et ils sont nés sous la condamnation du péché et ils mourront sous cette condamnation du péché. Telle est la volonté de Dieu. Alors, ils ne priaient pas pour eux, surtout pour ceux qui, laissés à leur propre choix, ne croiraient jamais en Christ. Ça, c'est toujours le résultat si Dieu laisse le choix à l'homme. J'entends certains disent, ah, mais il faudrait que Dieu laisse le choix à l'homme. Il faudrait pas que Christ lui-même fasse le choix. Mais je peux vous dire que si Dieu laisse le choix à l'homme, alors personne ne serait sauvé, laissé à eux-mêmes. Chacun mourrait dans son incrédulité. Donc, c'est un jugement ici lorsque Christ dit, je ne prie pas pour le monde. Il prie pour ceux que le Père lui a donné. C'est ça qui suit dans ce verset. Pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Alors, ce sont ceux-là que le Père lui a donné dans cette alliance de grâce depuis l'éternité et qui sont sauvés grâce à l'œuvre de Christ. Et quand Christ dit ici, ils sont à toi, tous ceux que le Père a choisis dans son élection éternelle sont à lui. Tous ceux que Christ a rachetés par son sang à la croix sont à lui. Et alors tous ceux que le Saint-Esprit appelle à Christ dans son œuvre efficace sont à lui. Donc nous voyons ici, à partir du verset 10, le Seigneur démontre l'œuvre du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand il dit « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Nous lisons à partir d'Éphésiens chapitre 1, comment le Dieu trinitaire est à l'origine du salut de chaque pécheur. Le salut ne dépend pas du pécheur, mais de Dieu. Tout ce que le pécheur contribue à son salut, c'est le péché, c'est la condamnation. Mais le salut, la gloire, revient à Dieu seul. C'est pourquoi Christ, ici dans sa prière, dit qu'il est glorifié dans ce peuple, par ce peuple, mais dans ce peuple, avec la gloire qu'il avait avec son Père depuis l'éternité. Mais lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, nous voyons cette œuvre de Dieu pour le salut des pécheurs qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est de cela que Christ parle dans sa prière en disant « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » On ne peut pas séparer les pécheurs de Dieu pour qui Christ est venu dans ce monde donner sa vie. Et dans Éphésiens chapitre 1, nous lisons « Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Si nous sommes à Christ, nous sommes élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, pas en nous-mêmes, mais en lui, par son obéissance, par sa justice qu'il est venu accomplir, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, encore par Jésus-Christ. Et notez, Éphésiens 1, 5, selon le bon plaisir de sa volonté, c'est pas selon notre volonté. Laissé à notre volonté, on n'aurait jamais choisi Dieu ou Christ. On aurait suivi notre chair jusqu'à la condamnation. Mais notez, verset 6 termine cette partie en disant « À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Voilà comment Christ est glorifié en eux. C'est avec cette gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en lui. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Et puis, ce qui suit dans le verset 7 nous montre l'harmonie qu'il y a entre l'œuvre du Fils et l'œuvre du Père, exactement comme Christ est en train de prier ici. C'est pour eux que je prie, il dit, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Nous voyons cette harmonie dans le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Notez, ça ne dit pas que nous aurons la rémission des péchés tant que nous croyons, comme si la foi maintenant devient la condition. C'est comme ça, beaucoup prêchent que Christ est mort pour tous les individus du monde entier, mais voilà, c'est seulement ceux qui croient qui sont effectivement sauvés. Ici, tout le salut est placé sur la rédemption par son sang. Et notez, la rémission des péchés. À quel moment est-ce que les péchés ont été remis? C'est lorsque Christ est mort À quel point est-ce que ceux que Dieu sauve ont été déclarés justes devant lui? C'est à la mort de Christ et selon la richesse de sa grâce. Donc si nous sommes un de ceux-là que Dieu a choisi et pour qui Christ est mort, donc au moment voulu par Dieu, il nous amène à Christ par son esprit en entendant cet évangile glorieux annoncé et prêché. Et c'est écrit que Dieu a répandu abondamment sur nous, cela veut dire ceux qui sont les objets de sa grâce, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et si on continue à lire, cette partie termine avec la même expression que nous voyons dans le verset 6, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si nous espérons en Christ, c'est à cause de cette grâce et c'est à la louange de sa gloire. Et ensuite, donc nous voyons l'œuvre du Père, nous voyons l'œuvre du Fils, et puis ici, dans le verset 14, l'œuvre du Saint-Esprit. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, donc c'est sûr que ceux pour qui Christ est mort, que le Père lui a donné depuis l'éternité, ils vont entendre l'évangile. La parole de la vérité, ce n'est pas un message mensonger comme on entend aujourd'hui prêcher dans le monde, que voilà, Dieu vous aime et que Christ est mort pour vous, mais hélas, si vous ne croyez pas en lui, donc tout cela fera échec. Non, ça ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que tout est accompli. Et c'est cet évangile que Dieu, dans sa grâce, envoie à ceux pour qui Christ a payé cette dette. Et c'est par cet esprit qu'il croit. C'est écrit, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà encore, scellés dans le sens d'autoriser. Par quelle autorité est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est enfant de Dieu? C'est l'esprit qui témoigne à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Par l'œuvre de Christ. C'est écrit qui avait été promis. Et notez, lequel, verset 14, Éphésiens 1, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Déjà, par le sang de son Fils. Mais notez, à la louange de sa gloire. Donc, trois fois, c'est répété là, à la louange de sa gloire. À qui la gloire? C'est à Dieu et à Dieu seul en ce qui concerne le salut. Donc, dans le verset 11 de notre texte, Jean 17, il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Le Seigneur parle ici du moment où il devait finir son œuvre et puis monter au ciel, ayant accompli tout ce que le Père lui a donné à faire. Et donc, lorsque j'étais avec eux, dans le monde, même chose dans le verset 11, je ne suis plus dans le monde. Le Seigneur envisage déjà son départ. Je vais à toi. Il devait aller à son Père comme le représentant, exactement comme le souverain sacrificateur, entrer dans la présence de Dieu en faveur du peuple, ayant offert le sacrifice expiatoire. Voilà notre souverain sacrificateur, Christ. Voilà le sacrifice expiatoire, non pas le sang des animaux, mais avec son propre sang. Il est parti à son Père et dit, « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Comment est-ce que ceux pour qui Christ a payé la dette sont un? Pourtant, nous sommes dispersés partout dans le monde. C'est autour du trône de la grâce de Dieu et en adorant le seul vrai Dieu. Ceux qui sont à Christ n'ont pas différents points de vue au sujet de Dieu le Père ou bien au sujet du Seigneur Jésus. Non, ils sont un dans cette foi que l'Esprit Saint leur donne au sujet du Christ. Ça, c'est une prière que le Seigneur Jésus lui-même a prié, et donc c'est déjà une réalité, parce que tout ce que le Seigneur Jésus demande de son Père, il reçoit. Donc, ceux qui se disent chrétiens, mais ils disputent ces points que je suis en train de vous annoncer, en fait, sont des faux chrétiens. Parce que s'ils étaient vraiment des chrétiens, ils seraient déjà enseignés par l'Esprit de Dieu selon ce qui est écrit ici dans sa parole. Et ils seraient déjà unis à ce Christ-ci. Donc ceux qui contredisent pour dire non, mais c'est pas comme ça que notre pasteur nous enseignait, ou bien ce n'est pas comme ça que notre dénomination enseigne, peu importe. La question est de savoir que dit la parole de Dieu. Ici, Christ prie que ceux qu'il a rachetés soient gardés dans ce monde, tous ceux que le Père lui a donnés, afin qu'ils soient un comme nous. C'est pourquoi je prêche cet évangile partout dans le monde, parce que, en attendant ce message, ceux qui sont vraiment à Christ, ils se réjouiront. Ils écouteront ce message avec joie et ils embrasseront ce sauveur qui est annoncé ici, le sauveur victorieux, le sauveur qui a sauvé effectivement par sa mort tous ceux que le Père lui a donné. Et c'est pourquoi Christ dit dans le verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Nous ne sommes pas seulement sauvés par l'œuvre de Christ, mais nous sommes gardés, préservés en son nom. Ce n'est même pas question que nous devons nous-mêmes nous garder, non. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il s'agit là de Judas Iscariot. Mais Judas n'était pas une surprise pour le Seigneur Jésus, comme si le Seigneur pensait qu'il était un des siens, mais en fin de compte, il a trahi, non? Depuis le début, le Seigneur connaissait ce qui lui appartenait, comme c'est aussi dans le monde. Il y en a qui sont des prétendants, comme Judas. Et avec leurs lèvres, ils professent le Seigneur, mais c'est évident que leur cœur est encore dans les ténèbres. Ils sont perdus. Mais ceux qui sont véritablement en Christ, voilà le point. Qui sont ceux pour qui le Seigneur Jésus prie? Il intercède en faveur de ceux que le Père lui a donnés. Verset 12 encore, combien de fois c'est répété, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Voilà notre assurance du salut, ce n'est pas dans une profession de foi ou une décision personnelle, non, c'est la volonté de Dieu de sauver des pécheurs tels que nous sommes. Et ayant sauvé cela par l'œuvre de Christ, maintenant gardé, préservé, on ne peut pas perdre ce salut que le Seigneur Jésus lui-même a procuré. Et encore, dans le verset 13, trois fois, 11, 12 et 13, il dit, « Je vais à toi, mais je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La joie parfaite du Seigneur Jésus, c'est d'avoir accompli l'œuvre que le Père lui a donnée. Et pour cela, sa joie parfaite est d'avoir auprès de lui pour l'éternité chacun de ceux-là. C'est la gloire de Christ et c'est cette gloire qu'il partage avec chacun pour qui il a donné sa vie. Donc en tout cela, nous voyons l'œuvre rédemptrice de Christ, nous voyons son exaltation et nous voyons son intercession. Et tout cela, c'est sa joie, parce que c'est le Père lui-même qui lui a donné ce peuple afin qu'il les sauve. Oh, le salut est glorieux quand on comprend ce que l'Évangile nous dit là-dessus. Mais ça prend une révélation de l'Esprit. Nous ne pouvons pas saisir les profondeurs de cet enseignement simplement par notre intelligence propre, non. Il faut une révélation de Christ au cœur par l'Esprit. Et là, nous verrons maintenant toute la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Mais pour terminer, dans les versets 14 et 15, ici, Christ dit, je leur ai donné ta parole. Encore, leur est donné ta parole. Ceux pour qui Christ intercède, il s'agit de ses propres disciples, bien vrai, mais de tous ceux aussi qui par leur prédication, même par cette parole inspirée que nous sommes en train de lire maintenant, parce que le Seigneur a utilisé l'apôtre Jean d'écrire ces choses, et à travers leur parole, d'autres, pour qui les morts viendront à lui aussi. Donc, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je vous dis que le Seigneur Jésus de l'Évangile, de la parole de Dieu, n'est pas populaire. Le Jésus qui est prêché est populaire. C'est vraiment à la mode pour beaucoup aujourd'hui de se dire chrétien. C'est populaire. Mais quand il s'agit de s'identifier avec ce Christ, de cette Bible, telle que je suis en train de vous l'annoncer, qu'il détient toute autorité, soit de sauver ou condamner, qu'il veut. Alors, il y en a dans le monde qui déteste un tel Jésus. Et puisqu'il ne peut pas maintenant saisir le Seigneur Jésus lui-même parce qu'il est remonté au ciel, donc il cherche à mettre à mort ou à pourchasser ceux que le Seigneur sauve et attire à lui-même en vérité. Et ceux-là maintenant sont opposés. Quand c'est écrit ici, le monde les a haïs, il faut savoir qu'il s'agit là du monde religieux. Les plus grands opposants aujourd'hui de ce message de la souveraineté de Dieu dans sa grâce en Jésus-Christ, cette opposition vient des hommes religieux, des organisations religieuses qui se disent chrétiennes. Pourtant, ces organisations et ces dirigeants sont opposés. Mais nous ne devons pas nous étonner parce que c'est de la même manière qu'ils ont haï le Seigneur Jésus et l'ont crucifié. C'était des hommes religieux. Sa mort a été décrétée dans les synagogues, dans des milieux où les Écritures étaient lues toutes les semaines. Pourtant, ils ont crucifié le Seigneur Jésus et donné la même occasion aujourd'hui, ça serait le même résultat. Donc, haï, mais voilà une bénédiction d'être haï à cause de Christ. Mais Christ dit, je ne te prie pas, verset 15, de les ôter du monde. Ceux pour qui Christ intercède sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, mais de les préserver du mal, quel que soit le mal, que ce soit le monde, que ce soit Satan, que ce soit notre propre chair. Nous avons cette assurance que si Christ est mort pour nous, il nous garde et rien ne peut nous arracher de sa main. Oh, quel message glorieux de l'Évangile et ceux pour qui Christ intercède.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shrevegrace.org.